Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Allons faire les lectures maintenant, qui seront la base de la prédication. Alors, commençons dans Esdras, chapitre 5, les deux premiers versets. C'est le retour d'exil. Le prophète Agée et le prophète Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Et nous allons entrer dans ce temps de reconstruction de la maison de Dieu par les récits du prophète Agée. Nous lisons donc les cinq premiers versets de ce livre d'Agée, Agée 1, versets 1 à 5 d'abord. La deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine ?» Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, « Réfléchissez à votre conduite. » Et nous passons au verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agée, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, messager de l'Éternel dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, « Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. » Et passons au chapitre 2, à partir du verset 6. « Car ainsi parle l'Éternel des armées une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. » Et nous passons au verset 12. « Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré ? » Les sacrificateurs répondirent « Non ». Et Agée dit « Si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qu'il touche toutes ces choses, deviendront-elles impures ? » Les sacrificateurs répondirent « Elles seront impures. » Alors Agée, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. » Et le verset 23, dernier verset, « En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel, je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. » Et nous voyons la réalisation de cette dernière prophétie dans Éphésiens 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà pour les lectures.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous sommes face à ta parole ce matin, et face à cette parole, eh bien nous ne pouvons pas nous y rendre seuls. Nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit. Nous invoquons ta grâce et te prions d'agir puissamment dans nos cœurs, afin que tu sois glorifié et que nous saisissions ce que toi tu veux que nous comprenions ce matin, que nous retenions, que nous mettions en pratique et que nous transmettions autour de nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Dans notre série des 12 prophètes, nous arrivons au 10e prophète, Agée, qui est aussi le premier prophète après l'exil. Donc avec Zacharie et Malachie, on les appelle parfois les prophètes post-exiliques, après l'exil. Alors, Zacharie va commencer son ministère à peu près dans la même période qu'Agée. Agée va commencer, et puis Zacharie, quelques semaines plus tard, va aussi commencer. Malachie, par contre, viendra quelques années plus tard. Plaçons un petit peu le contexte historique. Alors, vous connaissez sûrement les 5 dates clés pour vous aider à vous situer dans l'histoire biblique. On va les répéter, comme ça on les a bien en tête. Si je vous dis moins 2000... ou 2000 avant Jésus-Christ, quel personnage biblique vous vient à l'esprit? C'est ça, Abraham. Abraham. Moins 1500, Moïse, exactement. Moins 1500, Moïse. Moins 1000, David. C'est ça. Donc c'est approximatif, c'est juste pour donner vraiment des points de repère. Moins 500, déportation, j'utilise toujours ce terme, déportation-exil, puis en fait, depuis cette prédication, on va changer, on va dire Zorobabel, parce que c'est moins 500, et ça nous rappelle l'exil et le retour. Et l'an zéro, Jésus-Christ, voilà, on a fait le tour, Donc moins 2000, moins 1500, moins 1000, moins 500, vous avez ces différents personnages, donc Abraham, Moïse, David et Zorobabel, ce qui vous permet de vous situer un petit peu dans l'histoire. Donc le contexte immédiat de Agée peut être lu dans Esdras 1 à 6, que certains ont peut-être lu avant de venir ici. On a juste lu 2 versets dans le chapitre 5 tout à l'heure. Donc le peuple est revenu d'exil, il a construit l'autel des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Quand ils sont revenus, eh bien ils ont mis l'Éternel en premier, et puis ils l'ont mis au centre de leurs préoccupations, ils ont reconstruit l'autel. Ils ont posé les fondements du temple. Le temple, la demeure de Dieu, manifestation visible de sa présence parmi son peuple. Et là, les adversaires de Juda sont venus leur proposer leur service. Et les responsables du peuple ont refusé, en fait, de leur service, en réponse au commandement de Dieu, qui demandait de ne pas se mélanger avec les peuples qui adoraient d'autres dieux. Et donc, il y avait des personnes qui étaient sur place, là, qui étaient des syncrétistes. Syncrétistes qui signifie qu'ils adoraient plusieurs dieux. Ils adoraient aussi l'Éternel, parce que sait-on jamais, s'il peut nous bénir, et les autres dieux, parce que sait-on jamais. Alors, comme les responsables ont refusé leur aide, donc Zorobabel et Josué, ces personnes se sont transformées en ennemis. Ainsi, en fait, leur vraie nature a été découverte. Et les ennemis ont même réussi à arrêter ces travaux. Pendant 7 ans, donc Cyrus avait envoyé ce peuple pour reconstruire le temple, ils ont commencé à reconstruire, il a été arrêté pendant 7 ans durant le règne de Cyrus. Ensuite, il y a Cambyse qui est venu après Cyrus, pendant 7 ans, rien ne s'est passé, le temple n'a toujours pas été reconstruit. Et ensuite, Darius est arrivé, il a eu 2 ans pour mettre de l'ordre un petit peu dans son royaume, pour le pacifier, puisqu'il avait diverses révoltes. Et en 520 avant Jésus-Christ, le prophète Agée, appelé par Dieu à porter son message, arrive. Les fondations ont été posées en 536 avant Jésus-Christ. Cela fait donc 16 ans que la construction du temple est arrêtée. 16 ans que la construction du temple est arrêtée. Pour l'histoire, Esther sera reine au temps du roi qui suivra Darius, environ 40 ans après les paroles adressées par Agée. Et Esdras et Néhémie viendront ensuite, environ 60 ans après Agée. C'est dans ce temps-là, dans le temps de Esdras-Néhémie, que le prophète Malachi sera donc actif en Israël. Voilà pour un petit peu avoir la vue d'ensemble du contexte historique. Pourquoi on parle d'un contexte historique? C'est parce que la Bible nous parle de récits réels qui se sont passés. Et la date de la révélation de Dieu à Agée est d'ailleurs précisément donnée. Nous pouvons ainsi dire que ce matin, nous allons parler de paroles qui ont été dites en 520 avant Jésus-Christ. Venons maintenant un petit peu à ce livre d'Agée. Le livre d'Agée a une structure principale très simple en fait. Ce sont 5 messages qu'il a reçus de l'Éternel sur une période d'environ 4 mois. 5 messages qu'il a reçus. Et ce qui est très frappant dans ce livre, si vous l'avez lu, et je vous invite à le relire, il n'est pas très long, 38 versets. Eh bien dans ces 38 versets, il y a des expressions comme « la parole de l'Éternel »,« ainsi parle l'Éternel »,« dit l'Éternel » ou « oracle de l'Éternel ». Dans 38 versets, on trouve ça 25 fois. En fait, Agée est en train de nous faire comprendre que ce qui est dans notre Bible ici, ça vient de l'Éternel. Agée est simplement un transmetteur. C'est la parole de Dieu. Cela nous permet de bien saisir, évidemment, que toute la Bible est la parole de Dieu et non parole des hommes. Vous connaissez bien ce texte dans 2 Pierre, qui souligne en fait que toute parole, toutes prophéties qui ont été écrites ont été l'objet, ne peuvent pas être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans le prophète Agée, le message de l'Éternel à son peuple général est clair. Il veut les réveiller. Il veut réveiller son peuple. Il veut l'aider à entreprendre la construction de son temple. Il veut le réveiller, l'aider à entreprendre la construction de son temple, le guider pour comprendre ce qu'est la gloire. Il veut le guider pour l'aider à comprendre ce qu'est la gloire. Il veut le stimuler à agir avec intégrité. Il veut le stimuler à agir avec intégrité et il veut lui donner de l'espérance. Il veut lui donner de l'espérance. Voilà, c'est le message d'Agée en fait. De tout le livre d'Agée. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais avant, pour saisir que ce que Agée dit au peuple pour le temple à cette époque-là nous concerne aussi, nous allons faire un petit tour dans l'histoire. Et nous commencerons par le jardin d'Éden. On commence assez tôt, disons, dans l'histoire. Jardin d'Éden, où l'homme vivait en harmonie avec Dieu. Donc à ce moment-là, eh bien la relation avec Dieu, le lieu de présence de l'Éternel, le lieu d'adoration de l'Éternel était dans la présence entre l'homme et Dieu. Après la chute, c'est accompagné d'un sacrifice qu'un homme pouvait réellement adorer Dieu, lui rendre un culte, entrer quelque part dans le lieu saint. C'est ainsi que Noé construisit des autels, offrit des sacrifices, de même que Job, Abraham, Isaac et Jacob. C'est au temps de Moïse que l'Éternel fait construire un lieu spécifique pour manifester sa présence. Il s'agit du tabernacle. Le tabernacle où la gloire de Dieu s'est manifestée par la nuée qui a rempli ce lieu. Josué, les juges, Samuel, Saül, David ont vécu dans la période du tabernacle. Ils allaient rendre un culte à Dieu au tabernacle, le lieu où le peuple de Dieu se rassemblait lors des grandes fêtes. Puis David a eu ce désir de construire une maison, un temple à Dieu. Et ce sera donc son fils Salomon qui le construira. Et lors de la dédicace du temple, la nuée glorieuse de l'Éternel remplit à nouveau le temple. La gloire de Dieu remplit ce temple. Hein, ce temple qui était tapissé d'or et qui était une merveille de cette époque. Alors malheureusement, le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel qui a fait détruire ce temple par les Babyloniens. Et pendant l'exil, eh bien, il n'y avait plus de temple. Un rappel que l'Éternel avait été écarté de son peuple. Mais dans sa grâce, Dieu réveille l'esprit de Cyrus, qui envoie des personnes reconstruire le temple à Jérusalem. Mais quelle joie pour ces enfants d'Israël de retourner à Jérusalem, reconstruire le temple de l'Éternel. Ce lieu où Dieu manifeste sa présence. Et c'est ce temple qui fut reconstruit du temps d'Agé, qui sera ensuite rénové et embelli par Hérode pour s'attirer les faveurs juives. Et c'est ce temple-là dans lequel Jésus est entré. Ce temple-là a été détruit en l'an 70 par les Romains. En l'an 70, ce temple a été détruit par les Romains. Et après, est-ce que le temple, le lieu de présence de Dieu parmi les hommes, a disparu à jamais? Est-ce que le temple, la présence, le lieu de présence de Dieu parmi les hommes a disparu à jamais? Eh bien, le Nouveau Testament nous indique que le temple existe encore. Le temple existe encore. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, où l'apôtre Paul dit ceci, « Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, donc du milieu des païens. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Si vous cherchez quelque chose à méditer, reprenez ce texte en parallèle avec tout le livre d'Agé, et vous verrez un parallèle extraordinaire. Je ne vais pas pouvoir le faire ce matin, mais je vous donne déjà cet élément-là. Nous sommes des pierres vivantes, dit Pierre, dans son épître. Hein? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture... Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. 1 Pierre 2, 4 à 6. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans Éphésiens 2, l'Église en tant que corps est cet édifice, cette maison de Dieu dans laquelle Dieu manifeste sa présence et dans laquelle nous adorons l'Éternel. Donc construire le temple aujourd'hui, c'est édifier le corps de Christ. C'est faire progresser les chrétiens. C'est s'engager dans l'Église pour son développement, pour le développement du royaume de Dieu. Voyons maintenant que nous avons tout ce contexte et que nous comprenons que nous sommes concernés par ce livre d'Agé. Voyons maintenant les 5 prédications d'Agé. 5 prédications en une. Bon voilà, on ne verra pas tout évidemment. Mais on verra quelques éléments utiles. Je vous donne déjà les titres que j'ai donnés à ces 5 prédications. La première, eh bien, elle s'appelle tout simplement « Réveillez-vous ». Voilà, « Réveillez-vous ». La deuxième, « Je suis avec vous ». La troisième, « Soyez encouragés ». La quatrième, « Agissez avec pureté ». Et la cinquième, « Regardez de l'avant ». Alors nous allons maintenant nous plonger dans ces 5 prédications pour souligner quelques points. Donc, réveillez-vous, c'est les versets 1 à 11. Donc, gardez vos Bibles ouvertes dans Agé, que ça peut toujours y revenir, si jamais pour voir si ce que je dis correspond à ce qui est écrit, évidemment. C'est votre travail. Donc cela fait 16 ans que la construction du temple a commencé et ce travail s'est arrêté et n'a jamais repris. Alors, nous ne savons pas si c'était dit de manière explicite ou si c'était simplement implicite, mais l'Éternel qui connaît les cœurs et n'est trompé par personne, nous dévoile ce que le peuple dit. Vous le voyez dans le texte, il dit « Le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. » Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pas maintenant. Je ne l'ai pas prévu. Je n'ai pas le temps. Le peuple pense que ce n'est pas le moment de mettre la priorité à la maison de l'Éternel, qui est pourtant la manifestation de la présence de Dieu, le lieu d'adoration, de rassemblement du peuple de Dieu. On pourrait dire l'antenne de Dieu sur terre. Donc là, Agé, il arrive et dit « Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine ? Est-ce le temps de mettre toute votre énergie pour avoir une excellente note dans vos études et négliger votre vie de piété personnelle et la vie d'église en semaine ? Est-ce que le temps mis dans les rencontres de l'Église est un temps perdu ou bien investi? Est-ce le temps de mettre toute son énergie dans la construction de son foyer, dans son travail, dans ses loisirs, épuisé dans le temps qui devrait être mis pour les rencontres devant Dieu en Église afin de se réaliser ailleurs? L'Éternel, par le prophète Agé, répète ensuite deux fois une phrase qui dit ceci. Réfléchissez à votre conduite. Réfléchissez à votre conduite. Oui, il est important de réfléchir à notre conduite et en conséquence de cette conduite. Investissons-nous pour l'éternité? Beaucoup parmi nous connaissent Matthieu 6, les versets 31 à 33, qui en fait se rapprochent du message d'Agé, qui dit « Ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou comment serons-nous vêtus, car cela ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Vous savez, nous avons tous un certain nombre d'heures à disposition que nous pouvons utiliser selon notre décision. Tout ce qui est en dehors du temps de travail contractuel, ou du temps à l'école, ou du temps pour la gestion de base du foyer, etc. Nous sommes appelés à réfléchir à notre conduite. Combien de ces heures où nous avons la liberté de gestion sont utilisées pour la maison de Dieu? Alors en dehors du temps, chronos, nous pouvons aussi faire la même réflexion concernant notre argent, ce qui prend du temps dans nos pensées, notre énergie, ou même notre attention. En dehors du temps, chronos, nous pouvons faire la même réflexion concernant notre argent, ce qui prend le temps de nos pensées, notre énergie et notre attention. Alors si vous constatez que vous investissez déjà dans l'Église de Jésus-Christ, manifestée visiblement sur terre par l'Église locale, eh bien, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que vous pouvez vivre en vous appuyant sur Jésus-Christ, en cherchant à progresser selon les forces et les capacités et la situation que Dieu vous donne. Ne cherchant ni à lui donner des choses que vous n'avez pas, ni à remettre à plus tard ce que vous pouvez faire pour l'Éternel. Et si vous constatez que vous ne venez que le dimanche à l'église et que vous ne bâtissez pas l'église ou si peu, réfléchissez à votre conduite. Réfléchissez à votre conduite. Le premier message d'Agé que j'ai intitulé « Réveillez-vous » a touché le cœur du peuple. En fait, ils se sont mis à l'œuvre, ils ont obéi à l'Éternel, ils ont commencé à construire le temple. Et deux semaines plus tard, Dieu envoie de nouveau Agé pour sa prédication la plus courte, que j'ai intitulé « Je suis avec vous ». C'est les versets 12 à 15. Le peuple a obéi à la voix de l'Éternel et il est saisi de crainte devant l'Éternel. Le travail a repris, mais une peur s'est installée, une crainte devant l'Éternel. Eh bien, la crainte, la peur devant l'Éternel est justifiée lorsque nous vivons dans le péché. Oui, nous devrons craindre, mais pas crainte pour fuir, crainte pour se tourner à la croix de Jésus-Christ. Mais elle n'est pas justifiée lorsque nous vivons dans l'obéissance. Voilà pourquoi l'Éternel envoie dire une phrase à son peuple. « Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. » Les courses de prédication, hein ?« Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. » Court, mais puissant. Dieu veut rassurer son peuple. Dieu veut rassurer son peuple. Dieu est avec son peuple. Il n'est pas juste en train d'observer de loin. Il est avec son peuple. « Moi, je suis avec vous. » Et nous savons, selon Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Qui sera contre nous ? Personne. Personne, puisque Dieu est le souverain. Donc Dieu veut rassurer son peuple. Il est avec son peuple. Hein. « Moi, je suis avec vous. » Et nous savons, selon Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Personne, puisque Dieu est le souverain. Et c'est le même message que Dieu nous adresse encore aujourd'hui à tous ceux qui obéissent à Dieu et le craignent. Je suis avec vous. Vous vous souvenez peut-être de la promesse qu'il a dite à Josué, qu'on aime aussi relire quand on vit selon la parole, où il a dit « Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9. Donc, réveillé et rassuré, le peuple travaille un mois. Et Dieu voit qu'il a besoin d'être encouragé. Il envoie donc une troisième fois Agé pour la prédication que j'ai intitulée « Soyez encouragés ». C'est les versets 1 à 9 du chapitre 2. Tout d'abord, Agé répète la prédication précédente. « Je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. » Ensuite, il leur indique ce qu'il va faire de la maison de l'Éternel qu'ils sont en train de construire. Vous vous souvenez, hein, lorsque le tabernacle avait été achevé, la nuée de l'Éternel l'avait couvert de sa gloire. Lorsque le premier temple, le temple de Salomon, avait été terminé, la gloire de l'Éternel s'était à nouveau manifestée dans le temple. Et même nous le voyons dans Ésaïe, quand il voit la gloire de Dieu dans ce temple, dans le premier temple. Alors c'est vrai que le matériel utilisé par les contemporains d'Agé, du temps de Zorobabel, n'était pas aussi abondant que celui que David avait préparé pour Salomon. Le bâtiment n'avait pas le même aspect grandiose, et même l'Arche de l'Alliance avait disparu. Et pourtant, voici ce que Dieu dit dans Agé 2, verset 9. « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. » Votre travail vaut la peine. Oh, si vous saviez, Dieu lui-même, homme, y pénétrera dans ce lieu que vous êtes en train de construire. Dieu lui-même venu sur terre, Jésus-Christ, est venu dans cette maison qu'il construisait et c'est lui qui est venu apporter la paix. Hein, ce deuxième temple qui sera encore agrandi, enrichi par Hérode, est celui qui a accueilli Jésus-Christ venu sur terre. Vous savez, l'Église, notre temple, c'est l'épouse de Jésus-Christ, celle qu'il accueillera aux noces de l'agneau. Donc réjouissons-nous de participer à son développement, à son épanouissement, à sa sanctification, à son expansion, car elle sera présentée à Christ pour ne former qu'un avec lui. Mais quelle gloire ! Votre travail n'est pas vain, il est glorieux. Le peuple est réveillé. Le peuple est rassuré par la présence de Dieu. Il est encouragé par la promesse de Dieu et il travaille avec ardeur. Et deux mois plus tard, Dieu envoie à nouveau Agé avec une prédication que j'intitule « Agissez avec pureté ». Agissez avec pureté. C'est les versets 10 à 19 du chapitre 2. Le prophète commence par deux questions. La première concerne la façon de transmettre la pureté et la deuxième, la façon de transmettre l'impureté. Premièrement, comment transmet la pureté et comment transmet l'impureté. Alors, comment transmettre la pureté? On pourrait se demander, pour nous aider à comprendre, comment transmettre la santé?
Si je mets quelqu'un en bonne santé à côté de quelqu'un qui a un virus.
Ça nous parle un peu à cette époque. Hein.
Le malade guérira-t-il? Non. La santé ne se transmet pas. La santé ne se transmet pas. Nous pouvons aider le corps à retrouver la santé en le nourrissant bien, en lui donnant du repos, ou par médicamentation ou autre, mais nous ne pouvons pas donner la santé. Personne ne peut donner la santé.
Si un jour un médecin vous dit qu'il va vous donner la santé, c'est un menteur.
Dieu seul peut donner la santé. Et il en est de même de la pureté. Dieu seul peut donner la pureté. Cela signifie que le peuple est appelé à rechercher auprès de Dieu les forces pour construire à long terme, pour vivre la pureté qui conduit à une construction solide et durable. La deuxième question concernait la transmission de l'impureté. C'est vrai qu'on pourrait reprendre l'exemple de la santé, hein, et constater que nous arrivons très bien à transmettre les maladies. Comme un fruit pourri qui va faire pourrir tous les autres fruits. Cela signifie que lorsque nous sommes impurs, il est inutile de chercher de l'aide vers une personne qui peut être infectée pour être purifiée totalement. Mais alors que faire? Eh bien, Dieu donne la réponse au peuple en Agé 2,17, en leur disant ce qu'ils n'ont pas fait et qui leur a valu de tous être infectés. Pour être libéré de sa pourriture, de son infection, de son impureté, il faut aller vers Dieu qui seul peut purifier. Il faut aller vers Dieu qui seul peut purifier. Et cela se fait en reconnaissant sa faute, en la regrettant, en se détournant et en croyant que Jésus-Christ a payé suffisamment pour que nous puissions être libérés de cette faute. Et alors Dieu enlève la pourriture, l'infection, l'impureté du cœur et nous donne une conscience libre, ce qui nous permet d'être utile dans la construction de la maison de l'Éternel. Le peuple est réveillé. Le peuple est rassuré. Il est encouragé. Il est guidé pour vivre la pureté. Et ce même jour, Dieu envoie encore une fois Agé, une dernière fois, pour la dernière prédication que j'ai intitulée « Regardez de l'avant ». Regardez de l'avant, c'est les versets 20 à 23. Là, c'est vrai, Agé s'adresse particulièrement à Zorobabel. Zorobabel qui est un personnage important dans l'histoire du salut. En fait, Zorobabel fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. C'est un descendant de David. D'ailleurs, fait tout à fait étonnant que je ne développerai pas ici, mais qu'on peut discuter volontiers, c'est que, en fait, c'est même un nœud dans la généalogie, parce que la généalogie de Joseph et de Marie arrive les deux sur Zorobabel. Et puis ensuite se resépare. Très étonnant. Une personne vraiment importante dans l'histoire du salut, Zorobabel. Zorobabel est un sot. Il est élu. C'est ce que le texte dit ici. C'est un sot. Il est élu. Un sot et l'élection est une signification particulière et qui dirige vraiment clairement vers Jésus-Christ. C'est un sceau. Il est intimement lié à celui qui a mis le sceau. Il est élu, choisi particulièrement. Et quand on entend ces termes-là, eh bien ça nous fait penser à Jésus-Christ, évidemment. Le sceau indique aussi une sécurité. Ce qui est scellé est certifié. Zorobabel appartient à Dieu. Il est totalement en sécurité déjà sur cette terre. Et j'aime bien ce que disait un commentateur, donc je vous le redonne aussi. Voici ce qu'il disait. Les croyants encore sur terre, ça nous concerne je crois, hein, les croyants encore sur terre sont autant en sécurité dans la main de Dieu que s'ils étaient déjà dans sa présence au ciel. C'est juste magnifique. Les croyants encore sur terre sont autant en sécurité dans la main de Dieu que s'ils étaient déjà dans sa présence au ciel. Jésus a d'ailleurs dit à ses disciples de se réjouir non pas que les démons leur obéissent, mais que leurs noms sont écrits dans les cieux. Heureux d'être scellés et élus. C'est là notre espérance. Tout ce que nous vivons, et particulièrement dans la construction de la maison de l'Éternel, c'est notre espérance. Notre nom est écrit dans les cieux. Donc cette semaine, si vous êtes face à un travail qui demande de la persévérance, mais souvenez-vous que votre nom est écrit dans les cieux et faites paisiblement votre travail sans pression. Mais avec soin, évidemment. Votre place au ciel ne dépend pas de votre travail. Mais votre travail démontre que vous avez une place au ciel. Il faut se poser la question. Ton nom est-il écrit dans les cieux? Tes regards sont-ils tournés vers l'avant, vers Jésus-Christ? S'il peut l'être, c'est parce que le sceau de Dieu, préfiguré par Zorobabel, est venu sur terre. L'élu, loin de Dieu, le Messie, Jésus-Christ, est venu établir une alliance dans laquelle nous pouvons entrer par la foi. Le baptême vécu par obéissance est comme un sceau qui engage dans la construction de la maison de l'Éternel. Jésus reviendra de façon glorieuse. Son jugement s'accomplira. La délivrance du mal s'opérera. On le voit dans le verset 23, le début du verset, le 22, pardon. On voit ces éléments qui sont déjà ici présents. Et son royaume éternel sera manifesté. Donc en conclusion, rappelons-nous. Le peuple a été réveillé. Il a été rassuré. Il a été encouragé. Il a été guidé. Et ses regards ont été fixés vers l'avenir. Et le temple fut terminé. Quel puissant encouragement à se mettre à l'œuvre en laissant toutes les excuses qui nous arrêtent dans notre engagement pour le Seigneur dans le corps de Christ. Laissons toutes ces excuses en arrière. Prenons nos responsabilités. Il y a des choses que l'on doit faire, on a des responsabilités. Mais laissons les excuses. Et vivons dans ce corps de Christ, cette ambassade du royaume de Dieu, dans l'église locale où Dieu nous a placés pour manifester les dons que Dieu nous a donné. Donc réfléchissons à nos priorités et réjouissons-nous lorsque nous progressons dans la recherche du royaume de Dieu. Premièrement, nous allons prier. Éternel notre Dieu, j'aimerais te louer, t'adorer, te remercier pour ce prophète Agée. Tu l'as appelé, tu lui as donné tes paroles. Et Seigneur, nous avons ici une situation où un prophète a appeler le peuple à se tourner vers toi, et le peuple s'est tourné vers toi. Le peuple s'est mis à l'œuvre. Il a construit ce temple. Seigneur, permets-nous déjà d'en être émerveillés. Permets-nous d'en être encouragés. Permets-nous, Seigneur, d'en être inspirés. Et Seigneur, je te demande que nous en soyons touchés. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.